Bienvenue sur Fréquence Mistral. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler de notre émission hebdomadaire 100% foot avec Patrick, toujours à mes côtés, qui est déjà prêt pour le match de ce soir, qui est un match de Ligue des Champions, le second et le premier à domicile. Nous recevons l'Ajax ce soir. Eh oui, nous sommes mardi soir, hein. Donc on va pouvoir débriefer cette journée de Ligue 1, parler habituellement du football féminin, de nos Olympiennes, notre Olympique, tout simplement, et d'Aubagne en national. Voilà. Bon, ben, cette semaine, nous allons la démarrer pour le débriefing par Aubagne, qui a disputé la 8e journée ce vendredi 26, qui a disputé la 8e journée à Fleury. Aubagne Herbel l'a emporté 2-0 face à Fleury. Voilà. Donc, ce qui leur permet de se retrouver 6e avec 12 points. Une belle position intermédiaire dans ce championnat, malgré le manque de défaites qui était assez cruel, beaucoup de matchs nuls, et enfin une belle concrétisation d'Aubagne Herbel sur ce match. 2-0 face à Fleury. Aubagne jouera vendredi 3 octobre, c'est-à-dire ce vendredi prochain, face à Dijon, à domicile, Aubagne Dijon, donc le vendredi 3 à 19h30 pour la 9e journée.
Voilà. Ça sera un match un peu difficile, oui, parce que dans cet championnat de national, tu le vois, moi je regarde chez nos confrères et amis de BFM Marseille.
Tu as donc eu l'occasion de voir ce match avant de voir le match face à Strasbourg.
À Strasbourg, oui. Ouais, j'ai regardé Fleury et Aubagne. Et c'est d'un assez bon niveau, même si quand tu regardes la Ligue 1 Strasbourg OM après, tu te
les comparaisons sont très difficiles à faire.
Et c'est, alors, ceux qui vont regarder la Ligue des Champions ce soir et demain soir, alors là je te dis pas, mais c'est quand même une bonne équipe. Mais en ce championnat de national, il y a des anciennes équipes, Nancy, Sochaux, Dijon, qui ont joué en Ligue 1 et qui ont des structures différentes et qui ont des joueurs qui ont déjà touché à la Ligue 2 ou à la Ligue 1. Et c'est vrai que tu vois quand même un écart important. Moi, je regarde, il y a même sur BFM, non, chez nos confrères et amis de BFM, un récap de la journée de National.
Oui, qui retransmettent justement l'OM, enfin Aubagne, mais surtout qui l'ensemble...
Qui te montre l'ensemble des matchs, tu vois que les buts hein, en général. Mais c'est vrai que il y a des beaux joueurs de ballon, mais dans l'ensemble, le niveau, c'est d'ailleurs le problème, on en parlait sur la Ligue 2, sur le problème des recettes de télé, c'est que celui qui est abonné, qui regarde la Ligue des Champions et qui se fait, comme je fais moi, 3-4 matchs de Ligue des Champions par période, là, entre ce soir et demain, si j'étais pas au stade ce soir... Je regarderai la télé, je regarderai les résumés après sur Canal et tout. Et demain, j'espérerai une victoire du Barça.
Ah d'accord, on est sur la même longueur d'onde. Voilà, il faut souligner que le Paris Saint-Germain jouera face au FC Barcelone demain.
Voilà, non point qu'on soit mesquin, mais bon, voilà. Mais c'est vrai que quand tu regardes les matchs, après tu regardes... Tu regardes Aubagne en national, c'est-à-dire en troisième division.
Voilà, l'équivalent.
C'est sûr que c'est difficile après de trouver des gens qui payent pour regarder la Ligue 2 ou le national.
Pour terminer sur ce championnat, en l'occurrence, soit souligner Alcadouri et Chabal qui ont été les buteurs d'Aubagne Herbel. Donc 2-0, je le répète, face à Fleury pour cette 8e journée. Voilà. Donc, nous allons parler également de la Arkema Première Ligue. C'était donc la 3e journée. Et l'OM recevait également Fleury, FC 91, l'équipe féminine de Fleury. Voilà. Et il se trouve que Fleury l'a emporté 2-0. Malheureusement, Martigues, qui est le stade où reçoivent l'OM les Olympiennes, et n'a pas apporté chance à notre équipe marseillaise, nos Olympiennes. Et donc la prochaine journée se disputera le samedi 4 octobre, c'est-à-dire ce samedi. L'OM ira jouer à l'AS Saint-Étienne pour pour la quatrième journée.
Voilà. Il faut rappeler que Fleury, c'est une équipe qui est ancienne en Ligue 1 Arkema.
C'est une équipe qui flirte à la quatrième position de ce championnat d'élite.
C'est une équipe. Tu as les Lyonnaises qui sont loin devant. Oui. Tu as les deux Parisiennes, PSG et le Paris Football Club, qui sont costauds.
Pour ne pas les nommer, mais il faut souligner que les Lyonnaises, les Lyonnes ont réussi une partie. Il y a un score fleuve face au Paris Saint-Germain. Je crois qu'elles en ont planté 6.
6-2.
Donc,
Oui, c'est de loin au-dessus. Et avant, il y a eu un peu Bordeaux, il y a quelques années, à l'époque où les Girondins étaient en Ligue 1, ils avaient une bonne équipe féminine. Puis, avec les exploits de leur président, escroc, ils se sont retrouvés à vendre l'équipe et à vendre tout le monde. Ouais. Et donc, du coup, ils jouent en troisième division, un truc comme ça. Et donc, il n'y a plus. Et les autres équipes, tu t'accroches parce qu'il y a un énorme palier entre la Ligue 1 Arkema et la Ligue 2. Et toutes les équipes qui montent, comme c'est le cas de l'OM cette année, ont beaucoup de mal à se maintenir parce que tu as, disons, la moitié de ton équipe qui est en difficulté.
Malgré quelques recrues intéressantes cette année pour nos Olympiennes, on peut parler, j'en parle assez souvent, de Mathilde Bourdieu qui vient du Paris FC, dont deux, trois autres joueuses qui l'ont accompagnée, comme sont venues renforcer cet effectif.
C'est-à-dire Beaulieu, c'est une bonne joueuse, mais qui à Paris FC était barrée par Clara Matteo, meilleure joueuse du championnat l'année dernière, internationale.
Oui, ça me faut. Ouais.
Et qui est la buteuse et la meilleure joueuse du Paris FC. Et donc, c'est quand même une sacrée concurrence. Donc, elle a préféré changer de club pour pouvoir jouer. Mais c'est une très bonne recrue. Là, on parle de l'arrivée de Corinne Diacre sur le banc.
C'est d'actualité. Les négociations sont plus qu'en cours. Elles risquent de déboucher sur le recrutement de Corinne Diacre, l'ancienne sélectionneuse de l'équipe de France féminine.
Oui, c'est un bon transfert parce que c'est... Rappelons qu'elle a entraîné l'équipe masculine de Clermont en Ligue 2.
Absolument.
Et elle les a montées en première division. Mm-hmm. C'est elle qui a mené l'équipe. Elle tenait bien la boutique. Elle a été sélectionneur de l'équipe de France avant que des difficultés avec certaines joueuses.
On va dire cela comme cela.
Du clan des Lyonnaises qui voulait faire l'équipe et la sélection a fait qu'elle a dû partir suite à un complot très clair où les mecs, où il y a plusieurs filles qui ont dit « je ne veux plus l'avoir, elle le dégage ».
Sur une base de beaucoup de Lyonnaises à ce moment-là.
Et on rappelle quand même que tous les gens qui sont venus derrière, y compris Hervé Renard, n'ont pas fait mieux. Et donc, c'est très compliqué.
Malgré leur CV qui était, de grande qualité, elles n'ont pas pu faire beaucoup mieux que cela.
Voilà, et elle, c'est quand même une entraîneur d'expérience qui tu as quand même l'ancienne sélectionneuse de l'équipe de France qui a entraîné en pro chez les hommes. Donc, c'est solide. Ça devrait permettre de serrer un peu les boulons et d'apporter un peu de la qualité à cette équipe
l'entraîneur qui n'est toujours pas licencié de l'Olympique de Marseille, Gonzalves, l'entraîneur des féminines, l'occurrence, on n'est pas prêt de le revoir.
C'est celui qui avait en préparation, il y avait une bagarre entre staff en Espagne avec une équipe espagnole.
Il avait participé allègrement
à la baston.
À cette bagarre.
Et depuis, évidemment, il a été mis à pied. Et c'était son adjoint qui le remplaçait. Donc là, tu as un nouvel entraîneur en chef. Espérons qu'elle saura remettre tout ça d'aplomb parce que ce qui va être prioritaire en cette première saison, c'est le maintien.
Le maintien, bien évidemment, et d'engranger le maximum de points. J'ai parlé de la prochaine journée que nous disputerons à l'AS Saint-Étienne et la journée suivante, ça sera la cinquième. Nous irons jouer au Paris FC, donc une des meilleures équipes de ce championnat. Donc,
hormis ces deux matchs, ça laisse le temps à la nouvelle entraîneur d'arriver, de recadrer un peu, de construire son groupe et on espère que tout se passera bien pour notre équipe féminine et qu'elles obtiendront le maintien en fin de saison. C'est le seul objectif crédible.
Que maintien. Dire de mieux, que dire de plus, tout à, de tout cœur avec toi.
Voilà.
Voilà, on va pouvoir entamer cette journée de Ligue 1 qui s'est disputée, c'est la sixième journée, ce week-end. Voilà, voilà. Très rapidement, pour parler des résultats très vite, le premier match étant vendredi, il s'agit du match Strasbourg-Olympique de Marseille. Généralement, on termine sur une note excellente, et là, on va commencer par une note excellente, c'est la continuité de l'excellence. Ouais. L'OM a remporté 2-1 face à Strasbourg. Lorient, par la suite, a battu Monaco 3-1. Toulouse a fait match nul, me semble-t-il, face à Nantes, 2-2. Oui. Le Paris Saint-Germain a battu Auxerre, 2-0. Nice et le Paris FC ont fait 1-1 dimanche. Angers a perdu face à Brest, 2-0. Lille a perdu face à Lyon, 1-0. Metz et Le Havre ont fait match nul, 0-0. Et Rennes et Lens, sur le même score, ont fait match nul.
0-0. Voilà, match qui était assez médiocre,
oui,
d'ailleurs.
On peut le souligner.
Le match du dimanche soir, ce n'était pas une grande pub pour la Ligue 1.
En effet.
Parce qu'on rappelle, pour nos auditeurs qui n'auraient pas regardé l'équipe ou les trucs comme ça, une expulsion à la 50e seconde, indiscutable. Hein, Seko Fofana, l'ancien joueur de Lens d'ailleurs, qui fonce, qui transperce, et Gradit qui arrive et qui est en retard et qui le dégomme dans le rond central alors que le mec il file, il n'y a plus personne derrière, donc c'est rouge. Oui. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Et une équipe de Rennes qui a fait tout le match à 11 contre 10 et qui s'est créé moins d'occasions que Lens.
C'est ce que j'allais souligner, ça ne leur a pas permis de dominer ce match et de concrétiser les quelques occasions qu'ils ont eues. Beaucoup abattre la vindicte sur, je parle de certains médias, bien entendu, sur Abibay, l'entraîneur de Rennes. Mais bon, est-il coupable, responsable? Oulala.
Ah, forcément un peu, Franck, parce que c'est quand même lui l'entraîneur. Mais après, moi, ce qui m'a frappé dans ce match, parce que j'avais souvenir du match de la première journée Rennes-OM, où c'est nous qu'on avait joué une heure à 11 contre 10.
On peut le rappeler.
Voilà, où les Rennais s'étaient battus comme des lions sur tous les ballons et où on avait eu énormément de mal. Ils avaient fait un pressing qui nous avait beaucoup gênés. On avait des occasions, mais on n'avait pas su les mettre. Mais là, par contre, le meilleur joueur de Rennes, ça a été Samba, le gardien de but.
Ah oui.
Qui leur sort 2-3 actions. Et d'ailleurs, Lens, pour les vieux supporters de l'OM et pour les amoureux de l'OM, ça fait plaisir de revoir Florian Thauvin à un tel niveau. Il a fait un très très bon match, s'est beaucoup battu, il a travaillé pour l'équipe et il a été très bon. Et ils se sont battus comme des
avec
lions.
Un espoir masqué, va-t-on dire. Mais on y croit guère. Une sélection probable en équipe de France prochainement. C'est en tout cas beaucoup de médias qui appuient sur le thème.
On rappellera pour nos auditeurs qu'il est toujours préconvoqué. Alors, préconvoqué, tu as 23 joueurs et tu as 50 préconvocations. Mais Deschamps ne l'a pas oublié, le préconvoque. Après, c'est une très belle saison à l'Udinese et en Italie, l'année dernière, il y a 2 ans. Il est reconvoqué régulièrement, il est préconvoqué. Et là, vu les blessés, Dembélé, Doué, entre autres, et tout, Barcola, il se pourrait que
une éventualité qui puisse intégrer le groupe.
Il se pourrait que Deschamps profite de deux matchs, certes de qualif pour la Coupe du Monde, mais qui ne sont pas non plus l'Azerbaïdjan et l'Islande. En Islande, c'est pas non plus le bout du monde. Même si l'Islande, on a eu du mal à les battre.
Il faut les jouer, bien entendu.
Il faut les jouer, mais il pourrait très bien faire revenir pour voir comment ça se passe, quoi. Et en tout cas,
c'est une éventualité.
Lui, j'ai trouvé excellent. Oui. Il m'a très agréablement surpris.
Et il est encensé par ses partenaires par l'ensemble du staff dirigeant. Et il sait s'impliquer de la meilleure des manières avec son équipe.
Voilà, exactement. C'est ça qui, moi, m'a le plus épaté. C'est que c'est quand même un garçon qui est champion du monde.
Ne l'oublions pas.
Qui a joué à très haut niveau. Et la manière dont il s'est battu, il s'est dépouillé pour défendre, pour aider l'équipe. C'est sûr que tout un match à 10 contre 11, c'est dur. si les mecs travaillent pas, tu es mort. Moi, ça m'a très favorablement impressionné, oui, parce que vraiment, il a été... Tu sens que c'est un leader d'effort dans cette équipe et il a fait un très bon match. Mais toujours est-il que Rennes, on revient à Bibey, ce que tu disais, Franck, c'est pas lui qui sait pas faire un contrôle et qui rate des passes à 5 mètres en mettant trop long ou trop court. C'est ces
ce
joueurs...
qui a été le cas de la plupart des joueurs rennais sur ce match-là, en tout cas.
Où beaucoup de joueurs sont passés à travers, ont pas
beaucoup
été
d'approximations techniques.
Voilà, et moi je sais qu'à demi-heure de jeu, il a sorti un milieu de terrain pour faire entrer le Jordanien Tamari, qui contre nous avait fait un super match, avait
il
été un danger permanent.
Ne l'a pas oublié.
Voilà, je me suis dit, tiens, il va mettre un mec qui dribble, qui met le feu. Et puis le mec, il passait à côté de son match, il n'a pas fait grand-chose.
Ben là, il était sur une autocombustion sur ce match-là.
Voilà, et les Rennais ont été mauvais. Quoi,
oui, là, tout simplement. Voilà. Voilà. Alors, il ne faut pas oublier que ce sont d'abord les footballeurs qui jouent au football. Oui. Et que, bon, ben, avant de critiquer, c'est assez facile l'entraîneur et ses choix. Là, on peut parler des joueurs sur le terrain, que, ben, quand on rate... Ben, son match au niveau technique, ben, c'est pas facile de concrétiser les actions de but quand il y en a.
Moi j'avais vu, comme je présume peut-être certain nombre de personnes, le match de championnat contre Lyon, où ils avaient renversé en fin de match et gagné 3-1. Ils avaient bouffé le ballon. Pourtant, Lyon, c'est une équipe de combattants.
Bien entendu.
Mais ils les avaient mangés dans l'envie. Et là, et contre nous, ils avaient fait un super match.
L'investissement sur ces deux matchs, pour les Rennais, ça s'apparentait peut-être un peu à de la grinta à certains moments.
Et là, je n'ai pas vu ça du tout. J'ai vu une équipe qui ronronnait, qui ratait des passes faciles, où ça manquait d'appel, ça manquait d'engagement. Et c'est vrai que dans la combativité, c'est des Lensois qui méritaient de gagner le match. Voilà, bon. Après...
Bon, ce qui permet à Lens de se retrouver, je dirais, au même niveau que Lille, au niveau du championnat. Je crois qu'ils sont 6 et 7e. Voilà.
Ils sont derrière nous.
Derrière nous, tout simplement. Voilà.
Et...
Pas oublier qu'il y a une équipe qui est première pour l'instant, qui a 45 points. Ben, ils sont premiers pour l'instant. Lyon est second avec 15 points, pareillement.
Moins bon qu'on l'avait.
Et nous, nous sommes donc troisième, c'est cela, avec 12 points. Ainsi que Strasbourg également.
Et Monaco, je crois.
Et Monaco également.
Voilà. Donc c'était quand même,
on a récupéré pas mal de points, c'est fort intéressant.
Voilà, on a quand même gagné chez une équipe qui était quatrième au goal average, mais premier ex aequo.
C'est rien de le dire.
Et qui est une équipe européenne et qui est une équipe solide, c'est un très bon résultat. Et moi j'ai beaucoup aimé, même si on peut déplorer un peu...
Oui, Patrick, je t'écoute. Cet entame de match,
On aurait dû mener en première mi-temps, mais on a eu des.
On ne va pas citer de joueurs particulièrement,
oui, bon,
un contexte.
Disons qu'Amine Gouiri n'est pas en forme en ce début de saison, contrairement à l'année passée où il nous avait porté à la deuxième place. Il avait été excellent.
Oh, que oui.
Là, c'est peut-être un manque de confiance. Mm-hmm. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais il a manqué. Deux ou 15 énormes,
une en première et une en début de seconde. Ouais.
Des ballons, normalement, lui, doit la mettre au fond, avec la qualité technique qu'il a, ce garçon.
Ben oui.
Et là, il a manqué des buts tout faits. Enfin, tout fait, ça n'existe pas, un but tout fait. Parce que,
Mais pour d'autres, il aurait été plus facile de le mettre à côté.
Il a manqué deux très grosses occasions. On aurait pu mener tranquille. Et on s'est fait prendre sur un contre. Les mauvaises langues diront que Balerdi, qui glisse au moment d'aller à l'interception du ballon, après il glisse et il pleuvait, il a plu tout
le
match.
C'est vrai que ce jour-là, il y a eu beaucoup de glissades sur la méno.
Oui, beaucoup de glissades parce qu'il a plu tout le match. Il a plu avant, il a plu pendant tout le match. Et donc il glisse et il ne peut pas intercepter. Et donc il y a un joueur strasbourgeois qui fusille. Rouli ne peut rien faire, il est battu. Mais c'est vrai que c'est un coup malheureux. Il n'a pas fait un mauvais match dans l'ensemble. Mais là, sur un coup malheureux, il n'est pas remonté pour mettre hors jeu.
Oui.
Voilà. Et puis, sur le centre enroté des Mégas, l'attaquant strasbourgeois, qui est un très beau joueur, il glisse, ce qui fait qu'il ne peut pas intercepter le ballon. Et donc, il y a but. Mais heureusement que l'équipe a su, c'est ça qui est très positif, rester costaud.
Oh, que oui.
Dans la tête, on est arrivé à égaliser par Aubameyang. Et puis, en toute fin de match, sur une belle action marquée des remplaçants, puisque centre le pavard, tête de Robinho Vaz, que le gardien dévie sur le poteau, et Murillo qui a suivi, la met au fond.
Sur son mauvais pied, mais qui a tout de même cadré et réalisé ce but.
Voilà, et Murillo, soit en passant, c'est un joueur costaud, qui a coûté que 2,5 millions, joué à Anderlecht
en
Belgique. Il a coûté 3 francs 6 sous. Et ben, le mec, il fait ses matchs.
Mais sa cote tend, je dirais, monter en flèche.
Oui.
Parce qu'il est vraiment bon à chaque fois qu'on fait appel à lui.
Voilà, et... c'est du costaud. Ouais, c'est un mec qui ne pose pas de problème, qui est très discipliné. Tu le mets piston, il est piston, il monte, il s'entend bien avec Greenwood.
Cette
faculté intéressante.
Cette adaptation de jeu.
L'année passée, souvent, il le mettait défenseur central droit, il faisait ses matchs.
À droite comme à gauche, capable du meilleur.
Voilà, il remplace à gauche alors qu'il est droitier et il fait ses matchs. Donc, c'est vraiment un joueur intéressant, un bon joueur de club. Et donc, on a bien... Et ce qui était intéressant, c'est le mental. On n'a pas lâché.
Ouais.
Alors qu'il y avait quand même... Tu prends un but malheureux alors que tu aurais dû mener. Et surtout, les entrants, il y a eu Greenwood, il y a eu Aubameyang, il y a eu Emerson, arrière-gauche,
absolument,
qui a fait une très belle rentrée. Puis Pavard et Robinho Vaz, ben, tu les retrouves sur les buts. Et ils ont changé la face du match, quoi. Voilà.
Très bien dit, et on peut encore une fois se rendre compte de. On peut parler de coaching, mais là véritablement il s'agit d'avoir fait jouer des joueurs, c'est ça le coaching.
Oui.
Quand il le fallait, ils ont réussi, je dirais, à développer notre manière de jouer et à intégrer le reste de leurs partenaires dans le bon sens et. Évidemment, réaliser des choses, concrétiser tout simplement.
Voilà, vous voyez, ça a permis, donc je disais les joueurs qui sont rentrés, Greenwood, Aubameyang, Emerson, Pavard et Robinho Vaz, ça a permis de reposer les joueurs pour le match contre l'Ajax en Ligue
absolument.
Des Champions.
Auquel tu vas assister ce soir.
Voilà, auquel je vais assister ce
d'ailleurs,
soir.
D'ailleurs, tu as déjà la tenue, je te vois face à moi.
Oui, j'ai un maillot que d'aucuns reconnaîtraient.
Oh,
et bon,
oui.
Bref. Et donc, voilà. Et donc, ça a permis de faire tourner, de concerner tout le monde, de reposer les gars, de donner quand même du temps de jeu et du rythme à certains. Et c'est une bonne gestion que fait l'entraîneur parce que. Avec des matchs tous les trois jours en Ligue des Champions, parce que là, on joue ce soir contre l'Ajax. Samedi, on joue à Metz.
Passe à Metz, soit à
Saint-Symphorien. Après, il y a une coupure, mais on a joué vendredi, on a joué lundi,
parce que
le match avait été reporté contre Paris.
Ouais.
Ça fait beaucoup d'efforts, beaucoup de fatigue, et c'est une nécessité de faire tourner. Et par rapport à l'année dernière, tu as une bande de meilleure qualité qui te permet... de jouer avec 4 ou 5.
On peut appuyer là-dessus en se disant que le banc est beaucoup plus qualitativement et quantitativement.
Voilà.
Et ça vaut le coup, justement, de faire tourner la plupart des joueurs. Et il n'y manque pas.
Voilà, et ça permet de laisser tout le monde concerné, d'ouvrir la possibilité de se dire « Là, je n'ai pas joué, mais je joue le prochain. »
Bien entendu.
Murillo, qui a marqué le but de la victoire à la 90+1, il n'avait pas joué contre Paris, il n'avait pas joué le match de... Il n'avait pas joué à Madrid.
Non plus,
donc, il n'était pas titulaire, en tout cas. Il était rentré en cours de jeu.
Oui, il était rentré en cours de jeu.
Mais voilà, donc, ça lui permet d'avoir du temps de jeu. Il a joué la 90 minutes, de retrouver la confiance. Il te montre que l'équipe tourne, quoi. Et que donc, c'est bien. Et c'était très positif, parce que si ce match, on l'avait perdu, ça nous mettait à 6 points de Paris et de Lyon. Ça fait beaucoup. Ça mettait Strasbourg 3 points devant,
et
qu'ils sont à égalité.
Et c'est mathématique.
Voilà. Et surtout, mentalement, ça aurait été un coup. Parce que là, tu as aligné une série. Depuis la fin du mercato, tu as aligné. Même si tu perds à Madrid, on ne va pas revenir sur le pénalty.
Le premier match, évidemment.
Lorient, encore fallait-il bien le prendre et le gagner, ce qui a été fait. Et tu as fait un bon match à Madrid où tu perds avec les honneurs, parce que je rappelle que sur
on en revient sur cette action de jeu où nous avons été sanctionnés d'un pénalty qui est
en bois.
Voilà, le terme est exact.
Disons-le, quoi. Mais mais ce qui est râlant, sans tomber dans le complotisme idiot et l'ultra-supporterisme stupide qui ne voit pas la réalité, ce qui est problématique, c'est que moi je suis sûr que dans l'autre sens, il n'est pas sifflé.
C'est évident. Voilà. J'en suis persuadé.
Voilà. D'ailleurs, il y a eu une action en première mi-temps où Militao détourne un ballon du bras.
On en revient à cette action de jeu qui est similaire.
Alors, à mon avis, il n'y a pas péno parce que le mec, il a le bras dans le dos, mais il touche avec le coude.
Non, à ce moment-là, je dirais, exemple de similarité, tu ne siffles pas la seconde action pseudo-litigieuse contre nous.
Voilà, et là, c'est sûr que tu te dis, si ce n'est pas le Real en face, c'est pas sûr qu'il y ait péno. Voilà.
Mais ça a permis de les ressouder. Était-il nécessaire de le faire, de le dire ? En tout cas, ça a fait du bien au groupe qui se retrouve.
Oui, parce que effectivement, comme tu le dis, ça a fait du bien, Franck. C'est que tu te dis, j'ai pas été ridicule. Il y en avait qui nous prévoyaient une rouste dans les 54 et compagnie.
Oui.
On n'en a pas pris 4, on aurait pu gagner, on a même, puisqu'on
en même temps,
deux buts sur deux pénaux. Alors le premier, il y est, il n'y a rien à dire, c'est Kondogbia qui se fait bêtement embarquer par Rodrigo et qui met le pied là où il n'aurait pas dû le mettre.
Mais le second, plus que litigieux, pour ne pas dire plus, malheureusement, on n'a pas été ridicule, nous avons perdu ce match-là, et ce soir, on va attaquer la deuxième journée de la Ligue des Champions à domicile. Patrick, avec toi.
Contre l'Ajax, et en espérant un bon résultat, parce qu'on n'est jamais sûr avant.
On n'est sûr de rien.
Mais c'est vrai que l'Ajax avait quand même un truc, c'est qu'on reçoit 4 matchs, puisque maintenant nos auditeurs doivent le savoir. Il y a 8 matchs de poule au lieu de 6 comme avant, mais c'est plus une poule avec les mêmes équipes.
C'est bien de le rappeler.
Les 4 que tu reçois, tu ne vas pas chez eux, et les 4 chez qui tu vas, tu ne les reçois pas. Donc, on recevra l'Ajax. Mm-hmm. Après, on aura l'Atalante Bergame, qui n'est pas un cadeau.
Eh ouais, un souvenir pas si ancien que cela.
Voilà, il y a 2 ans, en Coupe d'Europe, en demi-finale, où on avait fait match nul au Vélodrome et on avait perdu à Bergame. Et on avait été éliminés.
Là, nous possédons une autre équipe avec d'autres ambitions, même si elles étaient légitimes à ce moment-là.
Et rappelons qu'on reçoit donc Bergame, on reçoit également Newcastle, club du championnat d'Angleterre, une belle équipe, et on termine en beauté en recevant Liverpool.
Et donc c'est rien de le dire.
C'est pas des cadeaux. Donc le match de ce soir contre l'Ajax et contre Bergame d'ailleurs dans un mois, il faudra prendre les points, parce que si tu veux te qualifier, tu peux pas compter le 28 janvier, je crois, le match de Liverpool. C'est le dernier, le 8e match de la série. Tu ne peux pas compter une victoire obligatoire pour te qualifier.
Une opposition pour ce soir qu'il ne faudra pas prendre à la légère. Voilà. Je ne crois pas que ce soit le cas d'un imaginaire collectif, en tout cas pour le staff, pour l'équipe, pour le club. En tout cas, ils sont prêts à en découdre, et il va falloir concrétiser justement et gagner ce match.
Parce que c'est sûr que tu as besoin de prendre les points.
Oh, que oui.
J'ai parlé des réceptions, les déplacements, je le rappelle. Le prochain, c'est qu'on ira au Sporting Portugal à Lisbonne. C'est pas un cadeau.
Non plus.
Ensuite, on aura le FC Bruges qui a mis 4-1 à Monaco lors de la première journée de Ligue des Champions.
Il est vrai.
Et on termine par l'Union Saint-Gilloise qui a gagné à Eindhoven contre le PSV.
Justement, il n'y a pas de petites
journée.
Équipes.
Voilà. C'est du costaud, c'est des équipes solides.
Elles sont en Ligue des Champions, c'est pas par hasard.
En plus, que ce soit Bruges, que ce soit Saint-Gilles, se sont qualifiés en jouant les barrages.
Oui.
Là où Nice s'est fait sortir piteusement par Benfica.
Oh que oui.
eux, ils sont passés, ils ont joué 2 matchs de barrage et ils sont passés en gagnant les 2 matchs. Donc c'est du costaud. Et le championnat belge, on le voit chaque année.
Par hasard,
il y a régulièrement des équipes qui font des beaux parcours et qui sont difficiles à jouer. Donc, ça ne sera pas des matchs faciles. Sporting Portugal, j'en parle pas. Non. Bon, le plus dur, c'était le Real, on l'a fait. Malheureusement, on a perdu.
Mais termineront enfin, par peut-être le plus dur de cette poule, hein, ouais, Liverpool. Ouais,
ouais, Liverpool à la maison. Ouais. Et après, Liverpool, on sait que maintenant, avec le système de la Ligue des Champions, le classement sur les premiers, les 8 premiers sont exemptés de 16e de finale.
Voilà, oui.
Les 16 suivants se rencontrent en 16e aller-retour. Et voilà. Les 8 premiers, le classement détermine le fait que tu joues chez toi au match retour, c'est... les 8e, les quarts.
Très important.
Voilà. Et c'est comme voilà, ouais, tout le monde sait l'importance de jouer le dernier match à la maison, parce que s'il y a des prolongations, c'est chez toi. Voilà, s'il y a des tirs au but, c'est chez toi. Et donc, le truc, c'est que il n'est pas dit que Liverpool, le dernier match de poule, il y a à l'époque des poules de Ligue des Champions, tu étais déjà qualifié, voilà, tu as envoyé les remplaçants. Là, tu peux avoir des places qui sont importantes, pas que pour l'argent, hein, puisque tu as des... Tu as des
là, on parle sportivement.
Oui, oui,
voilà un paramètre voilà, assez important.
Tu te retrouves dans les 2, 3, 4 premiers, c'est intéressant pour le... pour les matchs à élimination directe, pour jouer au retour chez toi. Et plus tu es bien classé, et c'est un peu comme au tennis, tu as des classements où tu rencontres des moins bien classés que toi. Alors tu peux avoir des gros morceaux, hein, mais...
Bon, prenons les matchs les uns après les autres, bien entendu. Et il ne faut rien négliger à l'aune de chaque match, hein. Il faut les préparer de la meilleure des manières. Ouais. Bon, ben, en tout cas, évidemment, il ne faut pas trop se projeter sur la suite.
Oui, oui, parce qu'on ne sait pas, mais c'est vrai ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que Liverpool, ils peuvent être, même s'ils sont déjà qualifiés sans barrage, c'est-à-dire directement huitième, c'est-à-dire les huit premiers, ils peuvent avoir intérêt à gagner, pour être premier ou second,
pour recevoir
sûrement et pour avoir un meilleur tirage.
Absolument. Voilà. Ça fait partie de l'ensemble des facteurs.
Voilà, et donc tu n'as plus ce que tu avais, et on le voyait les dernières saisons en Ligue des Champions.
Ouais.
Moi, je me rappelle, c'était le Bayern de Munich, ils avaient 5 victoires en 5 matchs, le 6e, ils ont envoyé les remplaçants.
Oui.
Voilà. Donc, c'est pas le même match, quoi.
C'est
voilà.
pas la même configuration.
C'est pas sûr que ce soit la même configuration. Oh, même si des considérations de championnat national peuvent jouer.
Il est vrai que je peux comprendre qu'il y a une gestion humaine dans des groupes. Oui. Il faut laisser reposer et impliquer d'autres joueurs dans la plupart des groupes. Mais bon, surtout quand ils jouent la plupart des compétitions.
Voilà, exactement. Et c'est un petit peu ce qui fausse un peu et qui change un peu les trucs. C'est que des fois, tu le vois, par exemple, Paris Saint-Germain, qu'on a battu au Vélodrome. Voilà.
Pour ne pas le citer, voilà. Dis-le.
samedi, il recevait Auxerre.
Ouais.
Les deux buts sont deux coups de pied arrêtés avec des têtes des deux défenseurs
des
centraux.
Des deux défenseurs centraux, oui.
Zabarni, l'Ukrainien, et Beraldo, le Brésilien. Il n'y a pas eu d'action, de belles attaques, de centres, de buts, puisque Dembélé, Doué et Barcola n'étaient pas là, et Kvaratskhelia est sorti blessé en cours de jeu. Donc, en fait, il y avait beaucoup de remplaçants, et c'est les deux défenseurs centraux qui ont marqué.
Alors, petite parenthèse, cela risque d'autant plus de leur porter préjudice pour demain, le match.
Contre même si le Barça, lui aussi, les absents.
Oui, a quelques absents de marque. Mais bon.
Parce que, bon, je regardais hier soir l'équipe télé.
Ouais.
Ils ont fait un flanc sur Yamal qui est revenu, qui a fait un petit pont, qui a fait une passe décisive. C'était un formidable joueur, hein, tout le monde le sait. Enfin, il revenait d'un mois de blessure, il n'avait plus joué depuis un mois. Il est rentré les 20 dernières minutes, où certes, il a été décisif.
Oui.
Mais est-ce qu'il aura demain soir le rythme pour un match de haut niveau contre PSG? Je ne suis pas. Est-ce qu'il aura la durée? Est-ce qu'il pourra jouer une heure et quart?
Les matchs se suivent, ne se ressemblent pas forcément.
C'est un gars qui revient de blessure. Ce qui me permet de dire, si tu permets, Franck...
Mais je t'en prie.
Il y a des critiques que j'ai vues sur les réseaux sociaux sur Pekchao, Igor Pekchao.
Je voulais me toucher un mot, justement. Voilà.
Ouais. Oui, tout à
ton
fait.
Ton sentiment, Patrick.
Voilà, c'est que c'est un garçon qui a été blessé en juin.
On en a conscience, il n'a pas joué depuis
Et donc, il n'avait plus joué depuis la fin mai avec Feyenoord, son ancien club. Et donc, il n'a pas fait de préparation et il était blessé. Donc, tu ne peux pas t'entraîner. tu fais de la salle, de la muscu, mais tu ne peux pas t'entraîner, courir, etc.
Donc ces prestations, je dirais avec parcimonie, en tout cas, elles ne jouent pas la totalité des matchs. Donc, il essaie de retrouver...
Donc De Zerbi, il a fait rentrer un quart d'heure, 20 minutes contre Lorient. Il a fait rentrer aussi en fin de match à Madrid.
Oui.
Il a fait jouer contre le PSG, il a débuté. Moi, j'ai trouvé qu'il s'était bien battu, qu'il avait été dans l'esprit, c'est-à-dire...
On ressent son implication dans le jeu.
Voilà. Il défend, il vient travailler, il bosse.
Fondamental.
Moi, je le disais la semaine dernière, sur un ballon qui perd, il tente un dribble, il est contré, il a cavalé après le mec pendant 50 mètres pour l'empêcher.
Il est vrai que nous attendons un peu plus de justesse technique et des réalisations de sa part.
Mais ça demande d'être dans le coup, d'être bien. Comme tout à l'heure, on disait qu'Amine Gouiri n'est pas en confiance, donc il rate des trucs qu'il ne rate pas normalement quand il est bien. Et ben c'est un peu pareil, le mec il n'est pas dans le coup, il manque de rythme.
La confiance étant le mot magique.
Et il faut plusieurs,
surtout pour un attaquant.
Il faut plusieurs semaines. On se rappelle que l'année dernière, Rabiot, quand il était arrivé, il y avait 3 mois qu'il n'avait pas joué. Bon, mais lui, il n'était pas blessé, mais il ne s'était pas entraîné parce qu'il n'avait plus de club.
Et puis, on a eu beaucoup plus de patience à son
égard. Voilà, et il a fallu un bon mois. Et encore, c'est un milieu de terrain. C'est-à-dire, ce n'est pas un attaquant, ce n'est pas un dribbleur. C'est un milieu de terrain qui court, qui travaille, qui fait des passes. Voilà.
Un joueur tout terrain, en l'occurrence, qui nous fait quand même... Bon, il aurait sa place dans cet effectif.
Oui, largement. Il nous fait défaut. Oui. S'il n'y avait pas eu cette histoire à la noix.
Mais enfin,
Epek Chaos, c'est un ailier dribbleur. Donc, il lui faut du temps pour retrouver les automatismes.
Oui, parce que j'entends beaucoup, ici et là, évidemment, le prix de son transfert qui est énormissime. Mmh. C'est le transfert le plus cher qu'a réalisé l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc, on attend de suite que ce soit le super joueur qui réalise... Non, mais ce n'est pas encore ça.
Avec une différence par rapport à Vitinha, le Portugais qui a avancé en train.
Ne confondons surtout pas.
Voilà, c'est pas le même que
c'est
Paris.
C'est
pas le même. Mais lui, jouait à Braga où il avait été formé au Portugal, il était jamais sorti du Portugal et il avait jamais joué en Coupe d'Europe. Alors que Epek Chaos, qui est brésilien, jouait à Feyenoord de Rotterdam aux Pays-Bas. Un championnat qui est dur physiquement, ça rentre, championnat des Pays-Bas, c'est un très bon championnat, c'est assez physique. Et en Ligue des Champions l'année dernière avec Feyenoord, il avait
réalisé
une
très belle chose.
Donc il a montré qu'il avait le niveau.
Oui. C'est pas le Vitinha portugais qui était le plus gros transfert qu'on avait réalisé jusqu'alors.
Voilà, c'était le petit jeune qui arrivait, on ne savait pas trop comment il allait se débrouiller à l'étranger. Et premier transfert, lui, c'est pas le premier. Il a déjà fait ses preuves à Feyenoord. Moi, je l'avais vu, mais sans savoir qui c'était, contre l'AC Milan en Ligue des Champions.
Également,
Il avait fait un très, très bon match. Il m'avait impressionné, Et donc,
c'est un bagage technique.
Il faut lui laisser le temps de revenir, de trouver sa place, de s'intégrer. Et parce que là... on commence à voir des critiques, on s'est fait arnaquer, il est bidon, enfin des trucs débiles.
Mais on n'entre pas dans ce discours-là qui n'a pas lieu d'être.
C'est à ce compte-là.
Il n'y a aucune comparaison est faisable à ce niveau-là.
Ce qu'a dit Roberto De Zerbi il y a 2-3 jours en conférence de presse, il a rappelé que Gouiri, c'est lui qui te porte l'année passée en fin de saison et qui t'amène à la deuxième place.
Eh oui.
Parce qu'il avait marqué beaucoup de buts, il a été excellent. Bon, mais là, il est moins excellent, il rate, il vendange. Mais bon, c'est les buteurs. Des fois, ça rentre pas, puis des fois, ça rentre. On va prendre ce que disait Cristiano Ronaldo, que les buts, c'est comme le ketchup. Tu secoues, il n'y a rien qui descend, puis d'un coup, il y a tout qui vient.
C'est tout ou rien, quelque part.
Ouais. Espérons pour Gouiri que rapidement, ça revienne. Voilà.
Ça a été tout en fin de saison passée. Et bon, ça va revenir assez rapidement. On ne perd pas son football sur des moments où on n'a pas justement la réussite nécessaire.
Voilà. Et sinon, on fait ce que... On en parlait hors antenne tout à l'heure. J'écoutais sur Radio Monte Carlo un chroniqueur que j'aime bien d'ailleurs, qui en général est très intéressant parce qu'il est polémique.
Il y en a quelques-uns quand
même. Qui a fait quand même une intervention hier sur le thème « Habib Bey, il est mort, il est bidon, il faut le virer, il faut que Rennes change d'entraîneur ». il y a trois mois, Bibey devait prendre la place de Deserbi à l'OM parce que c'est Deserbi qui était bidon et que lui, il était génial.
La thématique d'actualité, voilà. On met à charge voilà, certaines protagonistes.
Bibey, ouais. Il gagne quelques matchs, ouais. Et puis il redeviendra un super entraîneur. Et c'est le même qui avait dit que Lyon aurait dû virer Fonseca quand il a été suspendu parce qu'il était nul et qu'il était meilleur Pierre Sage. Et maintenant, Fonseca, ben, avec une équipe où il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de banc, surtout, ils arrivent à avoir 5 victoires en 6 matchs et à être premier ex aequo, ce qui montre que le mec, il n'est pas mauvais. Quoi. Voilà, y a pas de... Et donc, c'est un peu...
On ne voit que par les chiffres, voilà. Les résultats reflètent l'ensemble.
Ouais. Voilà, c'est vrai que Rennes n'a pas été bon contre Lens, oui. C'est vrai qu'il n'a pas su trouver le coaching et les trucs, mais bon, il ne faut pas non plus, sur 2 mauvais matchs, jeter les mecs. Et voilà, et tirer des conséquences. Mais ça, c'est beaucoup les médias.
Ça fait partie de ce jeu-là, voilà, malheureusement.
Voilà, c'est un truc. Moi, je regarde souvent sur l'équipe TV, l'équipe de Greg, où tous les lundis, ils font le top et les flops de la journée.
Ouais.
Tu peux être en top aujourd'hui, lundi prochain, tu es en flop.
Mais c'est, voilà. C'est évident.
Des fois, c'est tu as raté un match, tu as été maladroit ou tu as pris des barres et puis tu n'es pas rentré. Puis des fois, les poteaux, ils rentrent et ça rentre. Et c'est souvent la différence entre un top et un flop, quoi. Et donc, il faut juger sur un peu plus de temps et laisser un peu de temps pour travailler. Voilà, Peck Shaw est arrivé, il a été blessé, il n'a pas pu s'entraîner. Il est resté 2 mois sans s'entraîner. Bon, il faut du temps pour retrouver son rythme. Et espérons, parce qu'on n'est sûr de rien, espérons qu'il le retrouvera et qu'il redeviendra l'ailier virevoltant et qui déstabilise les défenses et qui crée des occasions.
Justement, j'en reviens, ça n'empêche pas l'implication et l'envie qu'il a de démontrer. Oui. Ah, oui. Et auprès de ses partenaires, on sent qu'il déborde de cette envie naturelle, ouais. Et il va la retrouver naturellement, une fois
parce,
de plus.
Ouais. Parce que c'est vrai que c'est un garçon...
Le talent ne se perd pas.
Qui a 25 ans, donc c'est pas un jeune comme on en a connu beaucoup de Brésiliens qui arrivent à 18 ans et qui sont trop jeunes. Mmh. Et qui, bon, quand ça a un petit coup de tabac, là on parle de se faire prêter Hendrick, le Brésilien du Real, qui certes est un jeune très talentueux, mais qui est arrivé à 18 ans, qui a coûté une blinde, qui a un très gros salaire, et qui vit mal de ne pas jouer au Real. Mais quand tu vois Mbappé, Rodrigo, Vinicius devant lui...
C'est-à-dire qu'il y a une opposition qui est difficile à contrer. Là.
Voilà, mon gars. Et en plus, il y a Arda Güler ou Mastantuono, des trucs comme ça, ou Brahim Diaz. Mmh. Brahim Diaz, il est remplaçant, alors que c'est un super joueur. Donc tu dis garçon voilà quoi et donc et qui déprime et qui sont pas bien et voilà dont l'entourage fait des déclarations stupides à un moment donné il faut Peck Shaw il a 25 ans il a de l'expérience il a galéré au Brésil avant de venir en Europe et il est un peu plus mature ce qui devrait permettre
le terme est exact.
Si tu le cadres bien tranquille que tu lui mets pas trop de pression et que tu l'encourages et devrait lui permettre de retrouver, on espère, son niveau. Voilà.
Ben, je n'en doute pas, l'accompagnement dont justement l'entourage et l'environnement fait preuve, professionnel, et pas que, je l'imagine, vont justement le tendre à sa réussite très très prochaine.
Voilà, on espère, et moi je le redis, j'avais juste vu un match à Milan-Feyenoord, et j'avais trouvé excellent, quoi. C'est après que j'ai su que l'OM était intéressé par lui, c'est après qu'on l'a acheté. Sur le moment, je savais même pas qui c'était, je connaissais même pas son nom.
Pareillement.
Mais je l'ai vu comme ça, j'avais regardé
le
match.
C'est ce qui m'a permis de chercher à le découvrir.
Et il avait été excellent. Ouais. Il a vraiment été très très bon. Et en Ligue des Champions, il avait été au niveau, mais alors largement.
C'est pour ça que le talent, tu ne le perds pas, tu le possèdes. Oui. Juste faut-il le mettre en exergue avec tes coéquipiers. Bon, on ne veut pas faire un parallèle, je ne devrais pas en faire, avec Greenwood, où on sait très bien ses qualités fondamentales de jeu. Mais on s'est dit, tiens, l'implication, il manque peut-être qu'il pêche à ce niveau-là. Et là, je vois que c'est revenu à la norme. Et ce qu'on attend de lui, pas simplement être un très très bon attaquant, mais son implication générale et totale sur le match.
J'ai écouté une analyse d'un ancien joueur, Éric Dimeco, pour ne pas le nommer,
oui.
qui disait qu'il était à Retafe en Espagne, où à Retafe, c'était de loin le seul grand joueur de l'équipe.
Ah, c'était le gros chouchou.
Il jouait par à-coup, faisait des actions d'éclat et tout le stade était debout.
Ouais.
Et puis là, tu es venu à Marseille, une équipe qui joue le haut du tableau. Là, tu joues la Ligue des Champions. Il faut courir, il faut défendre. Même Mbappé, il se met à courir, à faire le pressing.
Et oui.
Voilà, parce que sinon, tu n'existes pas.
À toute étiquette de grand ou de fort que tu as, si voilà. tu n'es pas impliqué avec l'ensemble de tes coéquipiers, ça ne peut pas le faire.
Et là, pour nos auditeurs qui se rappellent le match contre Paris, où il a énormément travaillé, il a beaucoup défendu, il a coupé les lignes de passe, il est redescendu tout le temps pour filer un coup de main derrière. Ce qui peut expliquer qu'en fin de match, il a eu une grosse occasion, et ben il a manqué de clairvoyance.
Le gros coup de moins bien.
Parce que le mec, pendant 90 minutes, il avait couru comme un dératé. Quoi.
Il fait voir ce que ça provoque, le jeu sans ballon et de la part de nos offensifs.
Et ça me renvoie à ce que je disais tout à l'heure sur Florian Thauvin avec Lens à Rennes. Le mec s'est battu pour l'équipe, il a joué pour l'équipe. Et ça, c'est important parce
En essayant de garder sa justesse technique.
Voilà. Et c'est important parce que les mecs le voient et l'équipe sera solidaire.
Et oui.
Le joueur qui ne joue pas, qui attend le ballon et qui râle parce qu'il ne reçoit pas, quand il a un problème et qu'il rate, il se fait rentrer dedans. Le gars qui travaille pour le collectif, qui se bat, qui mouille le maillot, même s'il rate, les copains vont l'encourager parce que c'est... Voilà. Et tu le vois des fois quand il y a un mec qui rate un pénalty ou qui rate un but tout fait ou un goal qui se trouve sur...
Ça peut arriver.
Voilà. Eh bien, on se rappelle l'année dernière l'action où, à Lille où Rouli, on mène 1-0, il tente une relance, il se fait intercepter, on prend le but... Voilà, sur lequel il ne peut rien faire d'ailleurs, et ben, tous les équipiers sont venus lui taper sur l'épaule parce que c'est un mec qui t'a sauvé plein de matchs.
Voilà.
Et ben, là, il s'est raté, ben, tu viens
la
lui
réponse
dire,
est dans la question. Bien
camarade, on est avec toi. Ouais. Voilà. Et Greenwood, la manière dont il a joué à Madrid, qu'il a joué contre PSG, ou même la rentrée qu'il a fait à Strasbourg, te montre un gars impliqué, qui se donne, qui court. Et ça, c'est très positif. Et c'est à mettre au crédit d'ailleurs de Zerbi, qui a su le... qui sait le manager, quoi.
Et sur l'ensemble, justement, de la gestion humaine du
parce
groupe.
On se rappelle que l'année dernière, il avait mis nous deux fois sur le banc parce qu'il trouvait l'engagement insuffisant. Il avait même dit, en conférence de presse, il ne court pas assez.
C'était criant de vérité.
Voilà.
Seulement, fallait-il le mettre en exergue
et
le mettre devant
mais très certainement,
ses responsabilités.
C'est pas uniquement je le mets sur le banc et le joueur, il se démerde. C'est que je parle, je discute, je lui remonte le moral, je le mets dans les conditions. C'est comme ça que les mecs, ils évoluent et ils progressent.
Et c'est en corrélation avec l'ensemble du groupe.
Voilà, exactement. Et c'est intéressant parce que tu as une équipe. Alors, on ne va pas délirer, on ne va pas gagner la Ligue des Champions. J'aimerais. J'en rêve.
Écoute,
mais malheureusement,
tu n'es pas le seul.
Malheureusement, ça m'étonnerait beaucoup vu le niveau de certaines équipes. Par contre, se qualifier pour les 16e, les 8e.
Commençons par là déjà.
Être en 8e, s'installer, re-être en Ligue des Champions l'année prochaine. Garder la majorité de tes bons joueurs et te renforcer intelligemment, c'est comme ça que tu te construis.
Tu viens de citer l'ensemble des objectifs à réaliser cette année. C'est comme cela, comme tu dis si bien, qu'on se construit.
Voilà.
Et chaque chose en son temps.
Voilà. Nous verrons bien.
Oh oui. Mais on a soif, je dirais, non pas de victoire. Elles viendront... comme viendront l'ensemble des résultats positifs que nous attendons, mais chaque chose en son temps. En tout cas, c'est parti sur une belle expérience. On parle de Ligue des Champions, le second match ce soir.
Oui, contre l'Ajax.
Voilà, j'espère
nous en parlerons la semaine prochaine avec Thierry, normalement, qui devrait pouvoir être là. Et parce qu'il travaille. moi je suis retraité, donc ça me fait sourire, mais bon, je me rappelle quand je travaillais, c'était pas toujours commode.
C'est comme un milieu de terrain, je veux dire. Parfois, on te dit, tiens, il manque quelque chose dans cette équipe.
Oui, il manque quelque chose
dans
cette équipe.
Mais en fait, voilà, c'est quand le milieu manquant n'est pas là, celui qui t'apporte.
On se rend compte qu'il manque.
Et ben, on va dire cela comme ça.
Un petit clin d'œil à notre ami Thierry. Qui est en déplacement pour des raisons professionnelles indépendantes de sa volonté.
D'accord.
Voilà.
Et donc de la nôtre.
Et de la nôtre, oui.
Voilà. Bon, mais en tout cas, une belle soirée qui t'attend, qui nous attend.
Mais, oui, oui, on va...
Nous l'attendons avec impatience et restons justement dans le déroulement de ces choses positives auxquelles nous assistons depuis ces derniers matchs. Et on est là pour ça.
En espérant que, on va dire quand même un mot, parce que le stade, qui est vraiment un véritable 12e homme, parce que contre le PSG... Plein toute la deuxième mi-temps, quand Paris avait la balle et qu'ils attaquaient sans arrêt et que les vagues revenaient. Heureusement qu'il y avait le stade qui n'a jamais lâché, qui a encouragé à fond. Alors, les joueurs ont fait beaucoup. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé à Guerre des Pavards en particulier. J'ai trouvé très calme, très. Et puis, ce qui m'a.
Serait une expérience qui a dépeint sur l'ensemble de leurs partenaires.
Ce qui m'a plu, c'est qu'à deux ou trois reprises, tu ne cherches pas à relancer dans ta surface. Un grand coup de botte devant, ça dégage, ça débarrasse, comme on dit. Si ça ne gagne pas, ça débarrasse. Oui. Parce que c'était très chaud, tu ne vas pas t'amuser à dribbler dans ta surface contre Paris. Voilà. Et qui ont fait un très gros boulot, l'un comme l'autre, qui ont été excellents. Et qui ont beaucoup apporté. Hoiberg qui a fait un match de très haut niveau.
Oh, que oui.
Et je le cite parce que j'ai beaucoup aimé son engagement. O'Reilly, l'autre.
On va en parler. Je crois que c'est sa première participation ce soir
en
Ligue des Champions.
Ligue des Champions. Voilà. Puisqu'il joue à Brighton.
Le partenaire danois
de Pierre-Emile Hoiberg. Qui est bon. Matt O'Reilly, mais c'est un Danois.
Oui, comme son nom ne l'indique pas forcément.
Voilà, on l'attendrait plutôt irlandais, mais bon, il est Danois. Et qui a fait, moi j'ai beaucoup aimé, autant en numéro 10, je l'avais trouvé un peu emprunté à Madrid, autant là il m'a plu par le harcèlement systématique et la combativité. Et c'est un mec qui a couru 13 km contre Paris.
C'est bien de le préciser.
Ah ouais, c'est un mec qui court énormément, qui harcèle, qui presse, qui contre, et qui, quand il a le ballon dans les pieds, est pas maladroit.
Il arrive à faire des passes fort justes et fort judicieuses.
Et il a un avantage sur Angel Gomez, qui est aussi un très très bon joueur, c'est qu'il fait un 90, quoi. Quand il met un coup d'épaule,
Son homologue, qui est un très très bon joueur, Gomez, sauf que, bon, il n'a pas la même carrure, il n'est pas aussi imposant.
1m68, 64 kilos.
Ça peut jouer dans le jeu. Ouais.
C'est vrai que quand tu as un Fabian Ruiz en face ou un mec qui te met des... Là, les Hollandais, tu vas avoir des costauds.
C'est évident.
Voilà, ça compte. Malheureusement, parce que c'est un superbe joueur, très fin techniquement, très bon joueur, très bonne mentalité. Mais physiquement, j'ai beaucoup aimé O'Reilly. Voilà.
Qui
va découvrir la Ligue des Champions ce soir. Il avait joué à Madrid, donc il a déjà joué.
Mais à domicile, le premier match pour lui.
Donc c'est là. Et puis, bon, en espérant que le stade sera bien chaud. Bon, contre Paris, tu marques à la quatrième, c'est vrai que ça chauffe.
Je crois un supporter adverse qui seront présents.
Ils ne seront pas.
Ce soir.
Ce soir, non. Il n'y en a pas. Non,
ce soir, ils ne viennent pas.
Ils sont interdits parce que les derniers matchs.
C'est
avec
ce qui m'avait semblé, je n'étais pas sûr de cela.
Avec les Hollandais, ils sont assez mal passés. Il y a eu un match.
Comme bien souvent.
Qui était en demi-finale de la Ligue Europa Conference il y a 3 ans.
C'était la question qui me taraudait, j'en étais pas sûr.
Où il y avait eu des affrontements à la Joliette, ils étaient venus, ils avaient attaqué un bar où il y avait des trucs de l'OM.
Bon, ça remonte à quelques années. Mais
ça fait 3 ans. Et il y avait eu des contentieux il y a 2 ans quand on les avait rencontrés en Europa League avec l'OM. À Amsterdam, où il y avait eu un peu la chasse aux supporters marseillais et à Marseille, où il y avait eu des incidents hors match.
On l'a connu malheureusement avec trop d'adversaires.
Pas dans le stade, aux Pays-Bas, il y a encore des... Alors, c'est un hooliganisme qui est peu dans les stades, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop d'incidents dans les matchs.
Et toutes les violences se disputent à l'extérieur.
Les violences sont à l'extérieur, avec des bagarres et tout.
Aussi,
Et donc, il y a eu un arrêté du ministère de l'Intérieur qui leur a interdit de venir.
Ah, je n'étais pas sûr de l'information. Je voulais te demander confirmation en l'occurrence.
C'est vrai qu'en France, on a cette grande capacité à savoir gérer les flux de supporters qui fait qu'on interdit quasi systématiquement. Mais quand tu as des gens qui viennent, parce que moi j'ai souvenir de Feyenoord, ceux de l'Ajax, c'était Feyenoord.
Je me souviens de ce match.
J'ai des copains qui étaient à la Joliette, parce qu'il y a un copain qui y bosse, et qui avait dit les mecs ils cherchaient la bagarre. Ouais, ouais, ouais. Voilà,
ils étaient venus pour en découdre.
Voilà,
ils
rentraient
bien
à 30 dans un bistrot, ouais, ouais, où il y avait une écharpe de l'OM, mmh, un truc comme ça, puis ils commençaient à renverser les trucs. Et puis, voilà. Donc les mecs étaient venus pour chercher la baston. Et c'est sûr que donc ils sont interdits, ce qui a permis à l'OM de vendre les places des supporters adverses. Ce qui était le cas contre Paris Saint-Germain, qui te fait un stade bien plein,
oui,
et bien chaud. Et c'est vrai que contre Paris, on l'a clairement vu, ça aide. Ça aide parce qu'un tacle défensif, un dégagement, t'y applaudis. Oh oui. Et c'est un truc. Et ce que moi j'ai
beaucoup... Ah oui, ça apporte une seconde souffle, bien souvent, oui, dans, oui, les, oui, situations délicates à négocier.
Voilà, j'ai beaucoup apprécié que, par exemple, quand Peck Shao est sorti, il a été remplacé,
oui,
à
il a été ovationné.
60... Il a été ovationné.
Malgré une prestation qu'on attend des meilleurs de,
voilà,
sa part.
Voilà, qui n'a pas été extraordinaire, combative, mais pas extraordinaire. Et le public est chaud et soutient. Et
la phrase bateau.
Voilà,
tu mouilles ton maillot, donc on est derrière,
voilà,
toi.
Et puis... Mais ça aide parce que,
ouais,
quand tu, oh, es, oui, tu es encouragé, tu n'es pas sifflé, tu rates, le public t'applaudit, on t'encourage, ça t'incite à retenter. Quoi. Alors que si tu te fais siffler, si
ça
tu
te
rates
porte,
un truc...
Au-delà, voilà, de te supporter, ça te porte.
Voilà, ça et... peut couper les jambes. Et là, contre Paris, ça a été très net.
Oui.
Et j'espère que ce soir, ça sera... J'espère, mais je le pense, parce que je connais quand même le stade. Quoi.
Oui.
Ça sera important, et parce qu'on n'a pas les moyens, en tant qu'équipe, hein, à mon avis, on n'a pas la qualité suffisante pour ne pas avoir besoin du public.
J'allais dire une bêtise, on n'a pas la capacité de gérer tous nos matchs en jouant à huis clos,
voilà, voilà,
à,
oui,
domicile.
Voilà, exactement. Et on se rappelle quand il y avait le Covid, les matchs étaient,
ouais,
à huis clos.
Pétard, ouais.
C'était sinistre. Mais alors, également, tu voyais les matchs, l'engagement n'est pas le même. Quoi.
Pas du tout.
Pas du tout quand il y a un stade qui vibre et qui. C'est vrai que contre Paris.
C'est un ensemble homogène qui vit.
Voilà.
Quoi.
Moi, j'ai vu les images après, puisque moi, je ne les ai pas vues, parce que j'étais derrière le tifo. Je ne voyais rien. Mais
d'abord dessous et après,
voilà,
derrière.
D'abord dessous, après en tenant le tifo, parce que c'était un tifo, il fallait tenir un peu. Et puis, on l'avait rebaissé, on l'a
Patrick,
relevé à la
Patrick, ce soir, on s'attend et on va découvrir
voilà,
un nouveau tifo.
Ce qui est prévu. Je ne sais pas si ça sera une tifo du même genre que contre Paris.
Non, mais qui sera splendide.
C'est compliqué.
La même collaboration dans le virage sud,
voilà,
entre les deux groupes principaux.
Les deux virages se
les deux
vont
virages,
faire
bien
pareil.
Entendu,
vont faire,
ouais.
Parce que contre Paris, celui du virage nord était chouette aussi.
Ouais,
hein,
aussi, ouais.
Il y avait l'écusson de la ville, ouais, avec une banderole qui rappelait que, contrairement à certains clubs...
On le rappelle.
Qatari, nous, on a plus de 120 ans d'existence, 125 ans.
Et même
ans.
Si le club a existé avant,
voilà,
la dénomination olympique de Marseille est arrivée en 1899.
Oui. Voilà, ça fait un passé.
Ouais, c'est vrai que par rapport à 1970, je n'ai pas de machine à calculer devant moi.
Mais, oui, mais enfin, ça fait une sacrée différence.
Oh, oui.
Et c'est sûr qu'on a rappelé, c'était une petite méchanceté,
ouais,
en passant. Mais ça aide beaucoup et c'est vrai que ça contribue au spectacle.
Oui.
Mais
c'est un partage, c'est un ensemble.
Pour en avoir des fois parlé avec des joueurs et avoir discuté avec des gens qui traînent à la commanderie, qui sont autour, dans l'environnement, c'est important.
Oui.
D'ailleurs, tu le vois quand tu vois qu'au Railey, on parlait du jeune danois. Mais le premier truc qu'ils disent les mecs, c'est le public. Quoi.
Ouais.
Et même les entraîneurs, d'ailleurs l'entraîneur de l'Ajax en a parlé.
Oui.
Il a parlé du stand. Et
je
bon.
Pense que l'ensemble des entraîneurs qui sont venus au stade Vélodrome,
oui,
on,
oui,
peut parler de Mourinho également, qui est la première fois qu'il est venu ici, et,
oui,
pourtant ça remonte, et bien, il a été estomaqué par l'engouement,
oui,
et le spectacle fabuleux et le bruit que généraient tous ses supporters.
Ah oui, oui, même... les reporters de l'équipe,
oui,
qui ne sont pas particulièrement pro-olympiques.
On l'avait compris, ouais, ouais.
On dit qu'ils avaient été impressionnés par le public contre PSG, quoi, parce que c'était vraiment, c'était assourdissant, tu n'en sortais pas, tu n'entendais rien, tu te parlais à 2 mètres, tu ne t'entendais pas tellement il y avait du bruit. Quoi.
On a l'impression de vivre ça à chaque épisode, mais
voilà.
Bon, ça se bonifie à chaque fois.
Mais c'est sûr que là, c'était le classico, c'était plus, c'était,
ouais,
vraiment,
ouais,
impressionnant. Et moi qui étais, bon, j'étais une heure avant en tribune.
À minima, il faut
voilà,
arriver avant.
On essaie d'arriver avant pas traîner trop et être bloqué à l'entrée.
Oh, oui.
Et surtout qu'ils nous avaient fait le coup du billet nominal, machin.
Oh là.
Sur le, voilà, il fallait, c'était, la carte ne fonctionnait pas.
C'est d'actualité maintenant.
Voilà, c'est, voilà. Et donc, tu es venu en avance. Tu le sentais une heure avant le match.
Je croyais qu'il n'y avait que la SNCF qui usait de ces subterfuges, mais ce n'est pas le cas. Même dans les stades de football.
Voilà. Oui, non, mais en plus, c'est débile parce que
ben ouais.
Moi, j'ai toujours connu que les gens. Moi, ça m'est arrivé à l'époque où je travaillais, mais là, je suis retraité.
Je sais ce que tu vas dire.
Voilà, tu es en congé parce que moi, mes enfants sont grands, donc tu laisses la priorité juillet-août à ceux qui ont des gosses. Qui ont des gosses scolarisés, et tu te retrouves en congé en septembre. Donc, tu manques un match ou deux.
Tu fais bénéficier ta place.
Voilà, un copain, un ami, une maman de la famille.
Ce qui est légitime,
ouais. Tu passes ta carte. Là, nominal, c'est honte, le vendre d'une pièce d'identité. Même si moi, on ne me l'a pas demandé. Hein. Mais peut-être que j'ai une bonne tête.
Hein. Ah, mais... ben, tu es connu et voilà. Reconnu.
Oui, enfin bref, on ne m'a rien demandé. Et j'aurais pu rentrer une Kalachnikov parce que la fouille, elle avait été un peu... Bon,
ouais, sommaire, on va dire.
Sommaire, dirons-nous.
Ils sont dépassés, enfin, débordés.
La Kalachnikov, je ne la rentre
non,
pas.
Non, je
hein,
ne
mais...
crois pas. Mais tu ne l'aurais même pas apporté.
Voilà, voilà, oui. Ouais. Mais disons que c'était... la fouille était sommaire. Oh, oui. Voilà. Mais c'est vrai que... Je ne vois pas en quoi ça sert, parce que tu ne sais pas, tu sais que machin est rentré, que normalement c'est lui, mais tu ne sais pas qui a envoyé un projectile, qui a fait. Tu ne peux le savoir qu'avec des caméras
malgré le système
dans la tribune, voilà.
Visuel des
caméras où on reconnaît un visage. Le fait que ce soit moi qui sois avec mon billet... Ça ne veut pas dire que j'ai fait quelque chose, ça ne veut pas dire que j'ai quelque chose à voir sur les fumées, sur n'importe quoi. C'est assez stupide, parce que ce n'est pas ça qui va régler les problèmes.
Enfin. C'est absolument ce que je voulais dire. Hein.
Ouais. C'est un peu... Bon, c'est un peu... D'autant plus que à Marseille, on n'a pas ce problème. Hein.
C'est ce que je voulais également dire, voilà. C'est qu'on n'est pas confronté à ce genre de situation. Voilà. Ce n'est pas deux, trois fumis ambiançant l'arène qui vont poser ces problèmes-là.
Voilà. Surtout que je regardais la télé encore, ils ont montré, c'était un match de championnat d'Allemagne, où même le journaliste a ironisé en disant combien l'amende, parce qu'il y avait une tribune, c'était un virage qui était rouge de fumigène. C'était Berlin contre je ne sais pas qui.
Et je ne sais pas s'ils sont confrontés à cela en Allemagne.
Oui, 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 ils ont des amendes. Mais bon, le problème, c'est qu'on te le montre à la télé. Pendant des années, Canal+, montré pour appâter le client, des classicos au MPSG, au Vélodrome, avec les tifos et les fumis. Tu mets ça pour attirer le public.
Pour attirer le badaud.
Et par contre, c'est interdit. Donc, je veux dire, à un moment donné, tu n'es pas très cohérent.
Absolument.
D'autant plus, alors ça peut être dangereux, et puis même la fumée, c'est pas très bon pour les bronches. Hein. Mais
je
bon,
suis bien placé pour
voilà,
le savoir.
Ouais, ouais. Ouais, voilà. Mais bon, disons que c'est à un moment donné, ça fait partie du spectacle, et on vante le Vélodrome parce que c'est un spectacle, mais si tu regardes bien, les champs, les fumis, les trucs, c'est, tout est interdit.
Je ne vais pas justement déborder sur ce qui s'est passé avec les supporters du virage sud de Nice, qui n'a pas été un spectacle flamboyant, loin s'en faut.
Héroïque,
avec des termes, il a fallu que Klos intervienne auprès de ce groupe de supporters assez rapidement en faisant des signes pour arrêter. Mais il se mêle tout mélanger. Après, tu as. Je dirais, on a la qualité du public que l'on mérite.
Oui,
c'est
malheureux
de dire cela, non, c'est malheureusement vrai.
Après, le problème, que ce soit Nice, il y a Lyon également, mais à Paris, il y avait à une époque, tu as des gens qui sont des militants politiques. Moi, je me rappelle du Parc des Princes ou au virage au Boulogne. J'ai toujours eu des copains.
On retrouve
de la
l'Italie des années 80.
Paris, on te disait, il faut pas rentrer dans le COP Boulogne si t'es noir ou arabe, parce que tu sors pas entier. Quoi.
On avait compris. Ouais.
C'était des trucs avec les croix celtiques, les saluts
nazis. On s'en souvient. Côté lyonnais également.
Côté lyonnais, il y a depuis 25 ans un groupuscule d'extrême droite
qui sont toujours présents malheureusement.
Qui, infiltré, qui est toujours là, qu'on connaît. Qui sont identifiés et connus pour la plupart, qui sont fichés à l'extérieur pour d'autres actions anti-immigrés, etc.
La confusion
après,
totale.
Après, c'est pas des actions où tu dis je suis contre, parce qu'après tout c'est ton opinion, même si voilà. Mais c'est des actions violentes.
Ouais.
Voilà. Et ils sont connus pour ça, et où on ne fait jamais l'effort de les sortir.
Mmh.
Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va te sanctionner pour un fumigène, parce que t'es fait choper, mais à de très rares exceptions. Moi, je me rappelle le match OM Lyon qui avait été reporté parce que le car avait pris des pavés.
Ouais.
Voilà, lamentable d'ailleurs. Mais il y avait des supporters lyonnais qu'on avait vus, mais clairement, à l'équipe, tu regardais, on voyait les mecs faire le salut nazi en tribune supporter. C'est depuis là qu'ils sont interdits de déplacement au Vélodrome. Les mecs ont été identifiés. Ils étaient fichés pour des trucs d'extrême droite violents. Et ils ont été suspendus le stade un an.
Ouais. Mais là, au niveau préfectoral, il n'y a pas de mesures prises pour faire cesser tout cela.
Les clubs ne peuvent pas te suspendre plus de 2 ans, de refuser de te vendre un billet. Et les interdictions maximales pour des violences sont 3 ans. En Angleterre, ils ont éradiqué le hooliganisme en interdisant à vie.
Ouais, malheureusement, ils ont réussi à repousser cela, car ça se passe à l'extérieur des enceintes, avec des divisions inférieures généralement représentant les clubs.
Troisième, quatrième division, c'est là que ça
bascule. Voilà.
Et c'est vrai qu'en plus, les stades anglais, pour y être allés 2-3 fois,
ouais.
C'est on dirait le Parc des Princes, quoi. Si tu lèves le COP, les ultras, quoi. C'est, on est tourné, on ne regarde pas le match, on est en train de prendre une photo, Kim Kardashian qui est dans la tribune. Au Vélodrome.
Ça dépend où tu te positionnes dans l'enceinte.
C'est un peu touriste, quoi. Mais Manchester,
pas le même engouement.
Manchester United, tu as installé, il y a plus de Japonais, de Coréens que d'Anglais. Et en plus, vu les prix, c'est inabordable.
Qui a accès, justement?
Tu as des tours opérateurs où tu achètes des places pour assister à un match au Théâtre des Rêves à Manchester United. Et donc, tu as des Japonais, des Coréens qui ne parlent pas, des Chinois qui ne parlent pas bien anglais, qui ont des messages en leur langue, qui leur dit applaudissez, chantez. On leur distribue les textes phonétiques, enfin, c'est des trucs.
On est au-delà du sport populaire par excellence.
Oui, qui est le foot.
Que nous aimons de tout cœur. Mais là, ça tend à disparaître. Ce côté ambiançant.
Et on retrouve ça d'ailleurs plus ou moins à les histoires, puisqu'on a joué à Strasbourg, avec le conflit qu'il y a avec certains supporters.
Une grève partielle des supporters strasbourgeois.
Alors, même si moi je pense, c'est perso, qu'ils vont un peu trop loin parce que bon, ils ont une belle équipe qui joue bien et que voilà, mais ils n'ont pas complètement tort, quoi.
Oui, dans l'absolu. Mais bon, après, comment faire pour avoir des moyens pour construire une équipe si on n'entre pas dans ces procédures-là de je me lâche le club ou voire plus.
Et le problème qui est, moi j'ai lu une interview, d'un club de supporters strasbourgeois qui est loin d'être débile et qui dit Chelsea te prête des joueurs que tu es obligé de faire jouer.
Ouais, c'est ça.
Parce qu'il faut qu'ils jouent. Il faut qu'ils accumulent du temps de jeu, même s'ils ont du mal. Et donc, ils ont un jeune, je crois qu'il est colombien, Paez, là, Kevin Paez, qui est brillant, techniquement, tu vois qu'il a du ballon, mais enfin, qui est un peu léger, un peu fragile. En Angleterre, il voltigerait toutes les 30 secondes. Et tu le fais jouer, parce que Chelsea veut qu'il joue, te le prête pour qu'il joue.
Oui.
Donc, à un moment donné...
Faut-il qu'il ne soit pas trop bon à Strasbourg, sinon Chelsea va les récupérer.
Après, de toute façon, s'il est bon, ils vont le récupérer. Et donc, je comprends que les mecs posent des questions en disant « Tu me prêtes les joueurs, je dois faire jouer, au détriment peut-être de jeunes du club, parce qu'il n'y a pas 40 places sur la pelouse. » Et tu peux avoir, tu es obligé de faire jouer. Si le mec flambe, comme c'était le cas de leur gardien, la Petkovic, et du Brésilien André Santos, qui avait fait une saison formidable l'année dernière.
La principale préoccupation du mécontentement des supporters.
Voilà, ils te disent, les mecs, ils repartent à Chelsea.
Eh ouais.
Voilà, et Petkovic, il a été vendu en première ligue.
On ne peut pas tout avoir, quoi.
Voilà. Et donc, c'est vrai qu'ils se posent des questions, que c'est loin d'être stupide. Alors, leur manière d'agir est peut-être pas bonne, parce que tu n'encourages pas ton équipe, tu fais la grève d'encouragement, tu pénalises ton club. Hein. C'est pas très, très... Moi, j'ai jamais été trop partisan de ces trucs-là.
Pas du tout.
Comme d'insulter les mecs. Tu siffles à la fin du match si l'équipe ne s'est pas battue, si elle n'a pas été bonne.
Mais pas pendant le match.
Mais pendant le match, tu encourages jusqu'au bout. Mais c'est vrai que la question qu'il pose est loin d'être bête. C'est-à-dire, il la pose mal, mais il se pose une véritable question. Parce que du coup, tu es une filiale. Donc l'entraîneur qui demeurant est excellent, il y a Mrozenior, c'est un très bon entraîneur.
Mais... Il l'a prouvé depuis l'année dernière.
Oui, il sait faire jouer les jeunes, il sait les mettre en confiance.
Il sait les intégrer.
C'est un bon entraîneur, mais on lui prête des gars qu'il doit faire jouer. Quoi. Donc, à un moment donné...
Pour le court ou le très moyen terme, c'est pas être prolifique pour Strasbourg, cette situation.
Voilà, et il reprochait dans le texte que j'ai lu des supporters qui ont été attaqués par Marc Keller, le président, d'avoir vendu un gars qu'ils avaient acheté à Bordeaux, quand Bordeaux est descendu, qu'ils étaient en difficulté, ils l'ont acheté, qui faisait d'excellents matchs, et qu'ils ont vendu pour 30 millions en Angleterre, mais à Nottingham Forest, je crois pas, hein, pas à Chelsea, ils l'ont vendu. Alors que le mec, c'est un joueur français formé au club, qui flambait, qui était bien aimé.
Ouais.
Parce que tu veux lancer des gars que tu as prêté Chelsea, qu'il faut faire jouer.
Ce sont des impératifs économiques.
Oui, c'est un peu...
Qui t'oblige à cela. Ouais.
Qu'est-ce qui est ta priorité, quoi ? Ton équipe ou... l'intérêt de Chelsea.
Dégager les priorités. Voilà le but essentiel.
Et ça, c'était juste pour dire que...
Une politique importante.
Voilà, la manière, à mon avis, parce que c'est que mon avis, la manière dont ils le font n'est pas très maligne, n'est pas très bonne, mais le problème qu'ils posent est un vrai problème qui, à moyen terme, peut se poser. Qu'on avait eu en France avec Troyes, qui était une filiale de Manchester City.
On s'en souvient. Mais
qui se retrouvait relégué en Ligue 2 parce qu'on a maintenu un entraîneur qui merdait parce qu'il était du groupe City. Et où tu as un joueur qui joue actuellement à City, le Brésilien Savinho, qui avait été acheté par Troyes, qui a été prêté à Gérone, qui était une filiale...
Là, il s'agissait d'une très mauvaise gestion de Troyes à ce moment-là.
De Man City. Le mec, il n'a jamais mis un pied à Troyes, bien que c'est Troyes qu'il ait acheté. Il a été revendu, donc prêté à Gérone et revendu à Man City, qu'il a repris à un prix, évidemment, entre eux.
Le show business fait partie de ce jeu-là.
Voilà, ça va d'une poche à l'autre, c'est pareil. Et le mec n'a jamais mis les pieds et l'équipe, elle est tombée en Ligue 2.
Et au détriment de cette équipe qui s'est retrouvée en Ligue 2.
Voilà, et là, les mecs, ils avaient gueulé, mais tu comprends qu'ils gueulent parce que la priorité du club n'était pas de monter en Ligue 1 ou de performer, c'était de former des jeunes pour les renvoyer à Chelsea.
Mais là, a priori, je ne vois pas Strasbourg se casser la figure comme cela, dégringoler. Oui. Ils sont, ce n'est que le début du championnat malgré ce, mais ils sont partis sur... je pense qu'on les retrouvera dans la ligne droite en fin de parcours.
C'est une belle équipe et puis les joueurs, même s'ils sont de passage, ils ont intérêt à briller.
Évidemment.
Mais moi, là où je pense, je redis, c'est mon avis, qu'ils ont fait une grosse erreur, c'est que Emega, qui est leur capitaine en plus, et qui est un super joueur, il nous a emmerdé tout le temps où il était. Ouais. Heureusement pour nous, il est sorti parce qu'il a eu une blessure musculaire. Il est sorti en seconde mi-temps parce qu'il nous a posé problème tout le match. Et il a été vendu à Chelsea en septembre après le mercato. Et ils l'ont fait sortir, ils l'ont montré en photo avec le maillot de Chelsea, où il n'ira qu'en juin 2026.
Ah ouais, c'est
mais ne le dis pas.
Ah non.
C'est
quelle erreur de communication.
Voilà, c'est une énorme erreur. C'est ton capitaine, c'est ton meilleur joueur. Il reste chez toi. Tout le monde sait que Chelsea, là, dans le collimateur, qu'il y a des chances qu'il
déjà
signe.
Sur le match face à nous, ça leur a porté préjudice de le faire sortir.
Oui.
Bon, c'était une blessure musculaire.
Ah,
mais de faire tout ce tintamarre et ce cinéma.
Et voilà, du coup, le joueur est critiqué par les supporters qui demandent qu'on lui enlève le brassard. Le mec, ça peut que le perturber. Ça perturbe tout le monde. Il aurait simplement pas fallu l'annoncer, le faire comme il l'a fait, ou sur les réseaux sociaux, tu mets la photo avec en plus, mi-septembre, après le mercato, quoi. Il a déjà signé à Chelsea, mais il est chez toi jusqu'au 30 juin. Donc
quelle communication exécrable.
Oui, c'est exécrable. Et tu te tires une balle dans le pied, quoi.
Bon, pour revenir, non pas à nos moutons, mais au match qui nous attend ce soir, très rapidement, on en a parlé, mais bâton, boire Balerdi, malgré le fait que l'on puisse penser qui va pas forcément être titulaire parce qu'il a quelques soucis de santé.
Ouais.
Il n'a pas été à l'entraînement hier, etc. Mais enfin, bon, apparemment, il est dans le groupe. Et bon,
oui,
va-t-il le mettre titulaire ? Va-t-on jouer à Gerd Pavard derrière ? Ou avec Balerdi
Est-ce qu'on va jouer à 3 ?
À 3, voilà.
Ou, ouais. ou à 4 ?
Ou à 4, ouais.
Voilà. Je pense que... ils prendront pas de Zerbi, ils prendront pas de risque.
Ouais.
S'il y a un moindre doute sur le fait qu'il puisse se blesser, aggraver la blessure, il jouera pas. Parce que je pense qu'avec une charnière Pavard à Gerd et même avec un trio Pavard à Gerd Medina qui tient la route, voilà.
Bah d'ailleurs,
tu n'as pas la mini
bon retour de Medina.
Voilà.
Qui,
Oui, c'est pas le Barça. Tu n'as pas Lewandowski ni la mini Firmin Lopez et Dani Olmo.
On peut gérer.
Voilà, tu as quand
défensivement, on a une équipe
plus
qui
faible.
Peut le faire, ouais.
Et est-ce qu'on jouera à 3 ou à 4 Est-ce que, à mon avis, il ne jouera pas, il ne prendra pas le risque.
Ouais.
S'il a eu un petit pépin, même léger, il ne prendra pas le risque. Et
donc le laisser sur le banc, pas l'intégrer
voilà,
tout
et
de suite. Quoi.
D'ailleurs, quand tu regardes bien, il avait laissé Pavard au repos à Strasbourg.
Ouais.
Medina est sorti. Medina, non, il a joué, mais il n'avait pas joué contre Paris. Donc, il était... donc, tu as quand même une équipe qui, où tu as partagé les temps de jeu. Je pense que le mieux serait de le laisser sur le banc. Voilà. Parce qu'en plus,
d'accord.
Il n'est pas... Comment dire, c'est pas un élément clé.
Dis-le.
Voilà. Oui, oui.
Bon, c'est notre capitaine dans le sens où c'est notre capitaine. Bon, il ne fait pas des matchs excellentissimes depuis le début de cette saison.
Voilà.
Mais quelques erreurs coupables
oui,
parfois.
Oui, oui,
mais bon.
Après, tu as une nouvelle défense, des
voilà.
nouveaux partenaires. N'oublions pas que pendant la préparation, Medina s'était blessé.
Ouais.
Donc, c'était Egan Riley qui jouait à côté de lui.
Oui.
Donc, il était décalé à gauche. Riley étant droitier.
Une polyvalence
voilà.
de ces joueurs-là.
Depuis, il a récupéré, depuis le 1er septembre, il a récupéré Pavard et Aguerd.
Voilà.
Donc, une charnière, tu as quand même besoin
et
de...
Et Pavard, qui au lieu de l'excentrer côté droit, le retrouver dans l'axe. Ça sera
voilà,
plus naturel
oui,
pour
oui,
lui
oui,
et
sûr.
Pour nous.
C'est plus sa place.
Ouais.
Et ce qui fait que ça demande un temps d'adaptation, de prise de repère. Et ça peut expliquer que sur certaines actions, tu te fais avoir sur le piège du hors-jeu
oui.
parce que tu ne te connais pas, tu es mal coordonné, tu n'as pas encore trouvé. Avec le fait d'avoir la Ligue des Champions et des matchs tous les 3-4 jours,
eh oui. les enchaînements
ça,
se font voilà, très
ça
rapidement.
Ça t'empêche de t'entraîner
ouais.
une semaine complète où tu peux travailler mmh. les automatismes. Là, tu n'as pas trop. Donc, c'est compliqué, mais c'est quand même un bon joueur.
Oui.
Et puis, je pense qu'il est respecté dans le vestiaire, il
oui.
est bien aimé de tout le monde. Et donc,
je n'en doute pas.
Voilà, ça peut être un peu problématique, mais à mon avis, s'il est touché, il le laissera au repos. Voilà. Surtout que je ne sais pas s'il est appelé avec l'équipe d'Argentine pour la séquence internationale qui
ouais.
arrive.
Non,
hein.
je n'ai pas vu les sélections.
Non, je n'ai
ouais.
pas vu, mais ils sont déjà qualifiés à la Coupe du Monde,
ouais, ouais,
donc
ouais.
c'est des matchs amicaux. Hein. Il se peut que Scaloni, l'entraîneur de l'Argentine, veuille voir d'autres gars, mais, ou qu'il le laisse au repos. Mais bon,
ça serait pas plus mal.
Ça peut être un petit coup malin pour dire
oui.
il est blessé, on ne le fait pas jouer, ouais. ne le sélectionne pas. Voilà, ça peut être un peu peut-être un truc
l'ensemble
comme ça.
Des usages
oui,
que font les clubs oh. avec les sélectionneurs.
Voilà, on connaît le mec qui se
ouais.
blesse juste avant la sélection, qui joue pas.
La ficelle
et qui rejoue
belle.
Le match d'après, quoi. Voilà.
Ouais.
Mais bon, tout le monde le fait. Voilà.
Ouais.
Et mais donc je pense qu'il jouera pas. Ce que
d'accord.
je ne sais pas.
On va le découvrir assez rapidement.
Voilà, c'est est-ce qu'on jouera à trois
oui.
centraux ou est-ce que
à
avec
4.
Parce que avec Emerson à gauche et Timothy Weah à droite,
oui.
tu as deux pistons de très belle qualité.
Absolument.
On peut même rajouter Murillo quand
oui,
tu as
oui,
besoin,
oui.
il est très bon offensivement.
Qui peut être présent. Ouais,
et donc
ça
peut être effectivement un choix, on verra sur le terrain parce qu'à mon avis, De Zerbi n'a rien dit. Donc, on peut que... De toute façon, tu as une chaîne sur deux. Hein. À 4 ou à 3.
Oui,
hein.
c'est
voilà.
ça.
Donc, tu as
je
une journal
qui dit que l'ensemble des deux joueurs maîtrise...
Oui, maîtrise les deux.
Les deux, ouais.
Et c'est vrai que même à la limite, à 3, ça correspond plus à la manière de jouer
oui.
de Pavard à l'Inter Milan et de Aguerd à West Ham et en équipe du Maroc, où il joue à 3. Souvent, il joue à 3.
Oui.
Et c'est donc un truc qu'ils ont l'habitude, qu'ils maîtrisent bien. Donc ça peut être ça, et Medina jouait à 3 en Lens l'année dernière, hein, et les années précédentes.
Également, ils n'ignorent pas ce système.
Donc, ils connaissent bien
tactique,
ce système, bien entendu, ouais. Et ils ont l'habitude de coulisser sur le côté pour fermer, voilà. Donc, tu as la chance d'avoir des pivots, Emerson, Timothy Weah. Donc, moi, je partirais plutôt là-dessus.
Ben voilà.
Parce que tu vas...
Pas de risque.
Voilà, tu prends pas de risque, tu tiens, puis éventuellement, tu fais des changements si tu as besoin d'appuyer, faisant rentrer un joueur plus offensif. Mais pour l'instant, je parierais plutôt pour ça. Après...
D'accord.
De Zerbi, il verra aussi en fonction. Il faut savoir que l'Ajax, il leur manque leurs deux attaquants de pointe. Hein.
J'ai oublié de le souligner également, deux joueurs.
Il y a un qui est très important comme absent, c'est Weghorst, là, l'armoire à glace qui joue avant-centre.
Le déménageur.
International hollandais, 2 mètres. Hein, voilà. Lui, c'est utile. Et puis, il manque celui qui a joué à Nice, Kasper Dolberg, le Danois, alors qui est un peu plus intermittent comme joueur, mais qui est quand même talentueux par moment. Donc, les deux sont blessés, sont absents.
Alors, deux pièces offensives absentes ce soir.
Ce qui est annoncé dans la province comme dans l'équipe, c'est Oscar Gluck.
Ouais.
Gluck. Le joueur israélien qui est un très
fin
joueur.
Non, tout à fait.
Il y en a qui l'écrivent Glock.
Ouais, c'est pour cela.
Gluck. Je sais pas.
Une question d'interprétation, voilà. Et on ne parle pas d'arbitrage.
Et voilà. Et donc, c'est un faux numéro 9.
Ouais.
Qui est un joueur plutôt numéro 10, plutôt un ailier, un dribbleur, petit dribbleur. C'est lui qui est annoncé avant-centre. Donc, tu auras un faux avant-centre. Ce qui veut dire qu'il essaierait de te mettre un porte-à-faux si tu défends à 3.
Ouais.
Tu es 3 pour un mec qui, en fait, fuit le contact.
C'est ça,
le
de t'aspirer, te faire descendre.
Et pour... on avait dit la semaine dernière que le match contre Paris, Gonzalo Ramos, qui est un avant-centre classique de surface, quand tu es à 3, tu as toujours un costaud sur lui qui est bonne de la tête. Et tu le contrôles, c'est moins inquiétant que
Dembélé
qui recule beaucoup, qui arrive lancer.
Qui peut te faire déjouer, bien entendu, défensivement.
Pas pareil. Voilà. Et là, je pense que lui, le joueur israélien, c'est un peu son cas. Donc je pense qu'ils vont essayer de jouer comme ça. Est-ce que par rapport à ça, De Zerbi privilégiera une défense à 4 pour mettre un milieu de terrain de plus? Ce qui te permet de mettre Højbjerg, Aurélie et Gomez.
C'est ça, pour équilibrer l'ensemble, du milieu à la défense.
Pour contrôler le milieu de terrain, parce qu'à deux, ça peut être, on l'a vu contre Paris, qui avait son trio de milieu avec Vitinha, Zaïre Emery et Fabian Ruiz.
Mais nos deux Danois...
Tu as été en difficulté, parce que tu étais 2-3.
Voilà.
Tu étais obligé de faire reculer... Greenwood l'a fait, Gouiri l'a fait, Pechao l'a fait.
Le dépassement de fonction de ses partenaires ont permis
de descendre, filer un coup de main, parce qu'au milieu, tu es en galère. Quoi. Ouais. Alors, le milieu de l'Ajax n'est pas le même niveau que celui du PSG.
Oui.
Hein.
J'ai confiance aux facultés d'adaptation de nos joueurs.
Mais c'est quand même là qu'ils ont d'excellents éléments. Ils ont Klaassen, international néerlandais, ils ont Bergwijn, international aussi, et ils ont un mec qui s'appelle Taylor, mais qui est hollandais. Même si le
Taylor,
nom.
Oui.
Voilà. Et qui, je me rappelle, il y a 2 ans, quand on les avait joués en Europa League, était pas mauvais, costaud, travailleur. Et donc, ils ont un bon milieu. Donc, il faudra voir. Je pense que De Zerbi fera ses choix. On en parlera la semaine prochaine.
Il les a déjà en tête et on va découvrir tout cela dans pas très très longtemps.
Ah, il a déjà choisi, préparé, ils ont fait, voilà, ils sont restés à la commanderie et ils ont dû faire
dans
beaucoup
quelques petites heures
de vidéos et de préparation parce que les matchs, ça se prépare beaucoup au tableau noir et à la vidéo. Et
l'outil principal
du
tableau noir et la vidéo à présent.
Voilà.
Ben, merci pour ta collaboration, je dirais, qui nous mène à la victoire comme à l'accoutumée. J'en dirai pas plus, mais on s'est compris.
Ouais. Je crierai pour vous ce soir.
Ben oui.
Voilà.
Merci à toutes et à tous et à la semaine prochaine.
Au revoir.
Allez l'OM.